faut savoir que 15 minutes plus tard, à la mi-temps, Arras mène 15-12.
Voilà, plus 3.
D'accord.
Et... ouais, c'est ça.
Dans un match, t'as déjà joué au handball, t'as déjà vu des matchs de handball comme moi, Mickaël. Dans un match où il ne se passe rien, puisque quand on regarde la feuille de match, il y a eu que 5 joueurs qui ont pris 2 minutes.
Ouais, c'est ça, Christophe.
Et, et un avertissement dans le match. Un avertissement, 5 joueurs sur les 26 ou 27 présents qui ont pris 2 minutes. Donc c'est un match, un vrai match de défense, propre, honnête, et une nana qui se dit secrétaire d'un club se permet de faire un rapport et d'aller pénaliser un club. Parce qu'aujourd'hui, t'as plus de coach sur l'équipe première.
Clairement, moi, le club pénalise pas mal de choses.
Tu pénalises un coach en équipe première, tu pénalises un coach qui s'occupe de jeunes. Ouais, en fait, lui, Mimi, c'est l'intermittent du spectacle. Il est là la semaine et le week-end, on lui reste chez toi. Et on lui met 12 matchs. Alors, pour moi, 12 matchs...
Bah là, je finis ma saison, 4 matchs, et je redémarre pareil, et je reprends avec le groupe... mi-octobre, quoi.
Moi quand j'entends la sentence, que c'est bien sûr c'est Jean-Yves Herbiot, hein, c'est JR qui m'a donné cette information, JR qui était abattu également tout comme toi, Mimi, qui me donne cette information, je vois l'histoire des 12 matchs dont lui ferme, mais je me suis dit mais c'était une agression violente. Parce que pour prendre 8 matchs, Christophe, moi je veux bien,
non, prends 12 matchs.
12, mais 8 fermes, c'est que...
c'est 8 fermes, quoi, en fait.
C'est qu'il y a eu une bagarre générale, c'est que, excuse-moi, je vais peut-être aller plus loin, c'est qu'il y a des coups et blessures volontaires. Bah, tu vois ce que je veux dire, pour moi.
Quand tu vois, quand tu t'entends 12 matchs,
mais oui,
faut pas se demander s'il y avait une bagarre. Hein.
Mais oui, c'est ça.
Ouais, c'est ça.
Une bagarre, tu prends quoi, 2 ans?
Bon, après, Christophe et Mika, ils ont, en fait, dans la commission, je l'explique aussi, ils ont un barème. Ils jugent comme ça, en fait, par rapport à un barème. Quand il y a des insultes et des coups, le coup, ça va jusque tout n'importe quel coup. Hein. En fait, ils ont une feuille, un barème, et ils suivent les recommandations.
Ouais, mais bon, c'est une personne indépendante d'une commission qui a décidé de ta sanction.
Et ta défense, elle est inutile.
Ouais.
Parce que même quand je suis arrivé là-bas, je me sentais un peu déjà coupable.
Déjà, donc t'es arrivé là-bas, t'as perdu.
Ouais.
Et en plus, c'est pas que t'as perdu, c'est qu'on t'a bas. Non, encore une fois, bravo à tous ceux qui veulent que les passionnés continuent. C'est très bien, on parlait tout à l'heure avec Pierrick Duchâteau, coach de la Rassoubal, qui disait c'est la boucherie des coachs. Et ben, on voit que dans les autres sports, c'est la même chose. On est en train de tuer les gens, parce que, encore une fois, parce que t'as du caractère, Mimi. Puis si t'as pas de caractère.
J'ai du caractère, je suis un passionné, j'aime ce sport.
Jusque quand?
Je défends ses valeurs, je suis pas comme ça, quoi, c'est pas possible.
Non mais jusque quand, Mimi? Parce que, encore une fois, t'es presque à genoux, jusque quand? C'est ça, je pose la question, jusque quand?
J'espère que mes joueurs vont faire la montée, je serai encore là, et on y va. Mmh. Et ils vont le faire, de toute façon.
Moi j'ai halluciné, hein. Sincèrement, quand on racontait l'histoire, d'abord j'ai relu 10 fois, et c'est dingue, parce que si franchement tu dis s'il y avait une bagarre générale, des coups et blessures volontaires, bah alors là c'est tout. Le gars,
j'en vois tous les week-ends, ça, Mickaël.
Mais oui, mais dans tous les sports, on en voit. Mais encore une fois.
Joueurs et tout, que moi je fais pas de discipline, je pose pas réserve. Mais c'est quoi ça? On va où? On n'a pas fini s'il y a tout ça, quoi.
Ouais, enfin c'est bon, c'est petit.
C'est petit, très petit, ouais.
C'est petit.
Bon, en tout cas, toi tu restes...
Et cette dame, on va bien répéter que c'est la secrétaire du club de Crépy-en-Valois.
Et voilà, c'est pour ça que je disais tout à l'heure. Hein, voilà, j'y venais, mais les amis, j'y venais, pourquoi? Parce que...
Secrétaire de la Ligue des Hauts-de-France.
Voilà,
elle est secrétaire de la Ligue des Hauts-de-France.
Oui.
Et cette dame, donc, est secrétaire de la Ligue des Hauts-de-France. Voilà. Et donc, Crépy-en-Valois, on le rappelle, les amis, parce que là, on y vient. Et encore une fois, on n'a pas peur d'en parler ici, Crépy-en-Valois. Et troisième à 3 points d'Arras. Voilà. Et là, maintenant, on commence à en discuter. On va pas mettre un, mais quand même, on pose ce qui est écrit noir sur blanc devant mon écran d'ordinateur. Voilà. Crépy-en-Valois est troisième à 3 points d'Arras, comme par hasard.
Ça va, ils auraient même pu enlever les points à ce rythme-là.
Ben oui.
Bien sûr.
Mais bon. En tout cas, toi, tu restes motivé et on est content de t'entendre triplement motivé.
Merci à vous. Il le faut, justement. Mmh. Bon, il le faut, on en a besoin. On a besoin de tout le monde pour pouvoir aller chercher la montée. D'aller vraiment, on en a vraiment besoin. Et je pense que les joueurs aussi, ils le savent. On redémarre même ce soir, là, tout de suite à l'entraînement.
C'est bien.
On s'en fait 3 cette semaine pour vraiment préparer Cambronne au mieux. Le groupe va être concerné, on remet les pépins parce que j'ai eu pas mal de blessures pendant la trêve, avant la trêve, après le match de Biache et avant, avec Cyprien qui s'était luxé le doigt, le petit doigt, Pierre qui s'était fait une entorse. J'avais pas mal de pépins chez mes joueurs, donc la trêve avait fait du bien. Mmh. Et là, on redémarre tambour battant, trois dans la semaine, et puis pour attaquer Cambronne, ce sera très bien. Et puis ben, finir la dernière ligne droite correctement, et j'aimerais la finir sur 4 matchs gagnés, quoi.
Ce samedi à 20h30, salle Gambetta Carnot, Arras, leader, deuxième, je dis leader, toi, je suis déjà dans, je pense que vous allez passer leader bientôt, Arras deuxième, recevra donc Cambronne, donc c'est ce samedi, et donc Cambronne qui est dernier, donc il ne faut pas déconner, et on fait confiance à ton équipe, mon cher Mimi, et on en parle dans les prochaines semaines pour l'accession au niveau du dessus. Une accession méritée, en tout cas, prends patience et puis continue d'être passionné comme tu l'es. On doit garder des mecs comme toi, en tout cas, c'est clair.
Un grand merci à vous deux, merci Christophe, merci Mickaël de m'avoir reçu ce soir.
Bonne soirée et à très vite.
À bientôt.
Merci,
Mimi. Ciao,
ciao.
Ah non, mais je voulais.
Je suis à deux doigts de donner son nom.
Non,
je vais pas le donner parce que.
Non, mais c'est pour ça que je voulais qu'on en parle parce que, je veux dire, moi, j'ai eu des. Jean-Rémy Barbieux qui était abattu. Mimi, bon, je l'ai pas eu, mais voilà. Mais comment peut-on faire ça? Et après, on s'étonne que le bénévolat et tout ça, etc., que tous ces passionnés, comment peut-on faire ça?
C'est encore.
C'est dingue.
C'est quand même un membre élu.
C'est dingue, oui.
De l'organigramme de la Ligue des Hauts-de-France de handball, quoi. Donc, j'espère que cette dame passe son temps à faire les autres salles aussi. Hein.
Bah j'espère, oui.
C'est
pas qu'à Crépy, quoi.
C'est accès à faire.
Pas qu'à Crépy, voilà.
Pas qu'à Crépy, voilà, quoi. Ouais. Qu'elle passe son temps à aller dans certaines salles qu'on connaît avec Mimi, avec JR. Parce qu'il y a des salles où c'est pas non plus.
C'est le hand.
Mais c'est pareil au basket.
Dans tous les sports.
C'est pareil dans certaines salles au basket. Dans certaines salles de basket, t'as encore des clubs qui sont là. Et puis, on se demande comment ils font.
Et puis, excuse-moi, quand t'es coach et que tu veux haranguer tes joueurs, Dieu sait que je sais de quoi parler parce que je coach du volley encore hier. Ça arrive mais on sort, on essaye de secouer le cocotier, comme on dit, le prunier.
Si tu parles comme ça à tes joueurs et que t'es à 7-1, rentre dans le vestiaire et rentre chez toi.
En fin de compte, c'est ça. C'est ce que veulent peut-être aujourd'hui ce genre de personnages. Mais bon. Okay. En tout cas, Arras, on va compter sur eux pour qu'ils puissent le faire.
On suivra l'opération le dernier match c'est le 2 juin.
C'est ça.
Donc le 4 juin, on redira cette dame que Arras, on rappellera cette dame pour peut-être lui dire que Arras est en prénat.
Dans la même poule, Biache a gagné ce week-end 27-25 sur Courmel. Biache 6e sera chez l'avant-dernier Abbeville.
Oui, on se sauvait tranquille.
Oui. En handball.
C'est une belle saison aussi,
Ouais, en handball chez les filles, en Asphalt 3. Biache 8e ira défier le leader Saint-Quentin. Là aussi. Ça va.
Je pense qu'au classement, j'avais regardé, ça devrait suffire.
Ah oui, ça va le faire. Ouais, ça va le faire.
Début de saison difficile, mais ils ont bien dressé la pente.
On est bien d'accord. Le basket, avant-dernière journée, mon cher Christophe. De pré-nationale masculine, défaite 79-74 de Saint-Nicolas, donc déjà relégué face au 3e Marny. Donc c'était la dernière sur le banc du coach Patrice Boulinguet, avec cette équipe. La dernière journée, les Lyonnais, 12e, donc seront à Coulogne, 7e.
Beau petit match, sympa. Match sympa, ouais. Avec une artillerie de chaque côté à 3 points. Je crois qu'il y a eu 20 paniers à 3 points. Sur l'ensemble du match, donc voilà. Non, c'était un petit match sympa. Bon, après, Marny, à mon avis, n'a pas mis toute la gomme, mais c'est même Saint-Nicolas a fait un match cohérent. Voilà.
D'accord.
Il faut essayer de bien finir à Coulogne, ce serait bien.
Ce serait bien pour le club, et puis après, on verra comment ça...
Et puis, en restant sur Saint-Nicolas,
oui.
Mercredi, tournoi loisir.
Un tournoi de loisir, à la
bonne humeur. Toute la journée, samedi et jeudi, les U17 et les U20 jouent la finale de Coupe d'Artois à Ulu.
D'accord.
Les U17 jouent contre Los Angeles, Los Angeles, et les U20 jouent contre le Racing.
D'accord.
Le Racing Club d'Arras.
Voilà. D'accord, ok. Nassau 3 féminine, Arras-Pertois finit sur une mauvaise note en s'inclinant 67-51 face à la modeste réserve de l'Oise, c'était mi-avril. Bilan 3e avec 15 victoires et 7 défaites. C'était la dernière sur le banc de Julien Wavelet après 6 saisons. Une belle aventure humaine pour le coach que l'on écoute de suite.
Comme je l'ai dit dans un premier temps, il y a eu avant tout une aventure humaine. Le groupe s'est vraiment très très bien entendu malgré toutes les difficultés qu'il y a eu. Que Céline soit enceinte, qu'on la prenne au mois d'avril. Alors c'était une bonne nouvelle pour elle bien sûr, mais forcément un gros déficit pour nous. que Victoria soit plus absente que prévu au début de la saison. Et elle a pas fait tous les matchs qu'elle devait faire. Ensuite, derrière, la blessure, sur le deuxième match, la blessure de Chloé Gros. Bon, avant ça, on avait eu une préparation un peu poussive, des matchs amicaux un peu poussifs parce qu'il fallait mettre en place l'équipe. Hein. On avait intégré trois jeunes joueuses, deux de 16 ans et une de 17 ans. Donc forcément, il fallait que la dynamique elle se mette en place et on avait besoin de temps. Donc du coup, qui fait que c'est pas passé. Mais malgré tout, les filles ont toujours répondu présentes aux entraînements. L'ambiance du groupe était très performante et c'est ce qui nous a permis, je pense, de rester dans le top 3.
Et pourtant, Julien, sur la saison, on peut penser que Stade Français va être l'épouvantail. Malgré ça, non, ce n'est pas eux qui seront l'épouvantail. Début 2024, vous revenez avec une super série. Est-ce que ce match à Templeuve, tant décrié le 24 février, a été un peu le tournant de la saison ?
Non, je pense pas que ce soit... Alors même si c'est effectivement, c'est un moment donné où on peut récupérer la deuxième place ex aequo avec Stade Français. Mais on n'était pas non plus sûr de gagner le match d'après à Stade Français. Donc forcément, c'est compliqué à se dire que c'était le tournant de la saison. Je pense que on a eu pas mal de matchs compliqués sur l'ensemble de la saison et on l'a vu. Hein. Je pense qu'aujourd'hui, Templeuve monte avec 5 défaites. Hein. Donc Ether, on fait des faux pas aussi sur des équipes de bas de classement comme Massine. On a fait un faux pas à Écodin. On fait deux faux pas contre Amberfar, un à domicile et un à l'extérieur. Donc déjà, je pense que ces trois matchs-là, au niveau des tours. Le match de Templeuve, oui, avec la coupure de 45 minutes. Mais peut-être qu'il y avait la place de le prendre chez nous, et ce qui fait que ça aurait équilibré le bilan entre elle et nous.
Julien, donc plusieurs saisons à la tête de cette équipe première. Qu'est-ce que tu retiens ?
Un début difficile, au vu de l'état des finances du club. sur la première saison, quand j'avais repris l'équipe au mois de novembre 2018, un bilan plus que négatif. Hein, on était à 1-10. On avait grappillé quelques points, on avait grappillé quelques places au classement, mais on s'était pas sauvé. Derrière, on repart en prénat avec zéro certitude, en fait, parce qu'on n'avait pas forcément beaucoup d'argent pour proposer des frais de déplacement ou des primes de match aux filles. Donc, on repart avec des filles qui sont restées fidèles au projet. On a eu la chance cette année-là de trouver deux non-mutés et puis d'intégrer des jeunes 18 élites à l'époque, parce qu'elles ont fait partie projet aussi à ce moment-là, et en restant sur ça, on arrive à faire une première phase de finale premier avec une défaite, et derrière on intègre la deuxième phase justement contre Templeuve, combat à l'époque juste avant l'arrêt du Covid, ce qui nous permet de rester premier, d'avoir un bon ranking, la première année N3, où quand on remonte de près d'un temps N3, c'est l'année Covid, hein, donc c'est une préparation catastrophique. Des cas contacts à Tire-Larigot, donc on était obligé d'annuler des entraînements. C'était très compliqué. On fait un début de saison à 0-4. La saison s'arrête. Il n'y a pas de montée, il n'y a pas de descente. Donc effectivement, hein, c'est aussi de temps en temps un petit peu de chance pour nous. Mais moi, ce que je retiens, c'est un top 3, top 2 sur les saisons d'après en N3.
C'est ce que j'allais dire, Julien. Top 2, top 3, il y a toujours manqué le petit rien pour aller à étage du dessus. C'est quand même un championnat difficile, ce championnat de National 3 féminine.
C'est un championnat compliqué, oui, parce que les préparations de match, les entraînements, les filles sont toujours prises par leurs études, leur boulot, donc c'est pas facile. Les matchs, c'est le dimanche après-midi, donc effectivement, c'est pas le meilleur moment pour pouvoir jouer quand on est adulte. Hein. On préfère jouer plutôt le samedi soir, mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est aussi une question de qu'il faut des arbitres aussi pour arbitrer, qu'il y a beaucoup de matchs le samedi soir, donc si tout le monde joue le samedi soir, il n'y a plus assez d'arbitres. C'est aussi un championnat où on a, comme la saison dernière, avec beaucoup d'équipes 2 qui en début de saison voient un petit peu comment va être le niveau du championnat et ne font pas trop descendre, et puis en fin de saison, descendent des joueuses pour se sauver. Donc c'est un championnat qui est très compliqué. On l'a vu encore cette année, hein. Tout le monde pouvait battre tout le monde à tout moment.
Julien, tu avais la double casquette de directeur sportif et puis également donc de coach de l'équipe première. La première casquette de directeur, tu l'as cessée en début d'année avant que quelques semaines plus tard, le conseil d'administration décide de finir cette saison avec toi et de ne pas la renouveler. Est-ce que tu t'y étais préparé ?
Oui, un peu. Il y a eu déjà au mois d'avril le changement de président. la relation entre le conseil d'administration et moi dans des choses qui étaient un peu compliquées, puisque c'était du renouveau pour tout le monde. Il fallait recréer des liens entre la présidente, entre moi, entre les membres, avec aussi, à ce moment-là, des objectifs qui étaient encore assez hauts sur l'équipe première. Il a fallu reconstruire, ça n'a pas été facile, parce que il faut faire venir des chiffres, il faut que ça corresponde au projet. Oui, et des moments de tension, parce que j'ai pas accepté non plus certaines choses qui ont été dites sur l'équipe, sur la constitution de l'équipe, sur les joueuses qui étaient parties de cette équipe. Ça m'a pas mis dans de bonnes conditions pour avoir de bonnes relations. Voilà. Et puis après, d'autres décisions aussi. Auparavant, on avait toujours des discussions avec Gaëtan sur le projet sportif du club, parce que lui, il avait aussi la manne financière qui fait que certains projets pouvaient être faits et pas faits. Et là, il y a des décisions qui ont été prises sans que je sois consulté. Alors après, que j'ai tort ou j'ai raison, peu importe. C'est pas moi qui ai le dernier mot, puisque c'est pas moi non plus qui dirige et qui préside le club. Mais au moins avoir une discussion, ou au moins avoir une explication avant de pouvoir faire des choix. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'en décembre, début janvier, de stopper tout ça. Et je me suis dit à ce moment-là que oui, effectivement, n'étant plus responsable sportif, directeur technique du club, je me mettais encore plus en difficulté dans ma position de coach de l'équipe première.
Une toute dernière question, Julien. Quel message tu transmets aux supporters, aux supportistes de ce club qui, bien sûr, rayonne autour d'Arras?
Je leur dis déjà merci parce que ils en ont fait des kilomètres avec nous, avec forcément des moments de joie parce que quand on avait gagné, tout se passait bien. Des moments peut-être un peu plus compliqués parce que quand on revenait avec la défaite, peut-être qu'on les avait déçus, mais en même temps, ils sont toujours restés fidèles. Ils ont toujours respecté aussi les filles, les coachs, et ça, j'ai toujours trouvé ça très très agréable. Rien pour ça, un grand merci à eux, et peut-être les recroiser de temps en temps et d'en voir certains, soit peut-être à Arras, en dehors du complexe Arras. Voilà.
Julien Wavelet, l'ancien coach d'Arras Partout Basket, l'équipe première, donc qui évolue en 9-3 féminine, mon cher Christophe.
Il a tout dit. Hein.
Le livre est refermé.
7 ans.
Je rappelle l'arrivée. Oui, 6 saisons. Oui, 6 saisons. Je rappelle donc l'arrivée d'un nouveau coach, Hamid Zahouri, 55 ans, c'est l'ancien entraîneur des Codins qui était dans la même poule d'Arras. Selon mes informations, donc il y aurait 3 recrues donc sur la saison prochaine, avec des joueuses qui restent, peut-être certaines qui partent, mais soit pour des autres projet professionnel ou quoi que ce soit, mais il y aurait 2 à 3 recrues. On aura plus d'informations dans l'émission du mois prochain, où on espère donc avoir le coach, voire le directeur sportif, qu'on rappelle Bono Oublié, hein, qui est également autour de ça. Voilà. Ça te va ?
Ça me va.
Bon, impeccable. On marque une pause, et dans un instant, normalement, on va sur l'eau. À tout de suite.
Arras Pride Festival revient avec une programmation exceptionnelle. Sound of Legend, Bilal Hassani, Maeva Carter, Louis Albi, Adrian Verda. Plus de 15 artistes ayant performé sur les plus grandes scènes internationales réunies dans un festival engagé à ne surtout pas manquer. Réservez vite votre place sur arraspridefestival.fr ou sur les réseaux sociaux. Rendez-vous les 7 et 8 juin sur l'esplanade du Val de Scarpe.
Saint-Laurent-Blangy et Ville-Étape des 4 jours de Dunkerque. Découvrez le mercredi 15 mai dès 14h sur la place de la mairie les expositions de vélos, ateliers et animations jusqu'à 22h. À 17h30 et 18h30, le parcours pédagogique à vélo, l'animation musicale Radio Cagette, la randonnée VTT de 20 km gratuite et ouverte à tous avant le feu d'artifice. Jeudi 16 mai, des animations sont prévues au stade nautique du Grand Arras avec dédicaces des coureurs à partir de 10h30. Échange avec Adrien Barre et Loïc Léonard et des sélectionnés paralympiques avant le départ des coureurs à 13h15. Retrouvez toute l'information de la ville sur saint-laurent-blangy.fr.
Le jeudi 9 mai, la Bassure en fête revient à Achicourt. Et c'est l'eau qui sera au cœur de ce rendez-vous annuel dédié à la nature. De spectacles les pieds dans l'eau en balade poétique, d'ateliers scientifiques en rencontre musicale. La Bassure en fête vous invite à profiter d'un moment de découverte et de partage pour tous les âges. Écologues, naturopathes, musiciens et comédiens vous guideront au fil de cet événement qui commencera par son traditionnel vide-grenier. Les animaux revenus dans le pré seront aussi de la partie. Rendez-vous dès 8h le jeudi 9 mai pour la Bassure en fête à Achicourt.
100% sport sur Planète.
100% sport, saison 18, l'avant-dernière partie, un dit par moi avec Christophe Humet, émission écoutable, podcastable gratuitement sur planetefm.net. Je t'ai dit, Christophe, qu'on irait sur l'eau tout à l'heure. Ça y est, on y va tout doucement, mais sûrement. On prend le bateau et avec nous en ligne, le président de l'ASL, Kenneka du Grand Arras. Bonsoir, Olivier Bail.
Oui, bonsoir Michael, bonsoir Christophe.
Bonsoir Olivier.
On t'a retrouvé, c'est bon, tout va bien. tu es où là? Merci. Tu es où là, cette heure-ci?
À Hallstatt, en Autriche.
En Autriche.
Sur la route de
Szeged. Sur la route de Szeged, en Autriche. Et oui, parce que le président, c'est ouverture de la saison internationale à Szeged en Hongrie, avec tout d'abord un tournoi de qualification olympique et des derniers quotas pour Paris. Alors, on rappelle, Olivier, Adrien Barre et Luc Novard sont déjà qualifiés avec le bateau canoë biplace sur 500 mètres. Adrien, lui, va courir le canoë monoplace 1000 mètres. Mais bien sûr, on croise les doigts. Il y a notre Franz Wasser. Explique-nous comment ça va se passer, donc ce TQO, si on peut dire ainsi.
Oui, c'est ça. Oui. Donc, effectivement, c'est le dernier moment de chercher les billets olympiques qui restent. Il n'en reste pas beaucoup. Et il y a beaucoup d'athlètes qui les veulent. Et donc, France, on bénéficie du fait que la France peut désormais, enfin, les pays peuvent désormais aligner deux bateaux par, deux concurrents par pays sur le canoë monoplace 1000 mètres. Donc, Adrien fera la course. Loïc ne souhaitant pas la faire, effectivement. Une place était à aller chercher. Donc, il y a deux quotas ouverts pour les pays qui n'ont pas eu des places en CM1000 à Duisbourg. Et France va tenter sa chance. Et voilà, il sort d'une très, très grosse saison hivernale. Il s'est beaucoup entraîné avec Adrien, notamment. Et il va tout donner, il va tout tenter.
Alors, dis-nous comment ça va se passer. Ça se passe sur jeudi, c'est ça? C'est jeudi, hein?
Alors, voilà, c'est la journée de jeudi, le matin, donc série et demi-finale. Et la finale après-midi, ils seront 9, il faut déjà effectivement aller chercher cette finale, 9 en finale, et les deux premiers auront automatiquement leur billet pour les Jeux de Paris.
Les
donc
deux
France,
premiers.
On connaît bien la règle du jeu.
D'accord, les deux premiers ont le ticket pour aller à Vire-sur-Marne au mois d'août.
Oui, c'est ça. Voilà. France connaît bien la règle, il n'y a pas à réfléchir deux secondes, il faut y aller, et il a fait une très très grosse préparation. Vraiment.
Olivier, ça veut dire que les gens qui seront à Szeged jeudi, ce sont des gens qui ne sont pas encore qualifiés.
Voilà, c'est ça. C'est ça, effectivement. D'accord. Les nations ont le droit d'inscrire des bateaux dans les catégories qui n'ont pas eu les sélections. Ouais. Comme Adrien est de sélection canoë biplace, donc il est sélectionné en canoë biplace, et étant sélectionné, il peut courir le canoë monoplace aux Jeux Olympiques sans prendre le quota de notre pays.
D'accord.
Voilà, effectivement, il va rester les pays en valide, c'est la règle. Ils ne peuvent s'aligner que les nations qui payent le quota, et celles qui souhaitent avoir un deuxième peuvent se présenter. D'accord. C'est le cas de France.
Et sur le papier, il y a du beau monde?
Oui, parce que en fait, canoë kayak en sprint, c'est 382 athlètes aux Jeux Olympiques pour sur les 10 500. Les places sont très chères. Et effectivement, il y a eu 6 sélectionnés à l'issue des championnats du monde de Duisbourg. Il reste 2 places. Alors ce qu'il faut savoir, hein, c'est que chaque continent a 2 places de quota. Ce qui fait que l'Amérique, l'Océanie, l'Afrique ont eu 2 places. Donc il y a peu d'élus. Il y a peu d'élus et quelque part, c'est ce qui rend les choses formidables quand ça passe. Et donc, voilà, c'est un gros challenge, très gros challenge.
Alors, Franz Wasser est papa depuis quelques semaines d'une petite rose.
Oui.
Aujourd'hui, l'adversaire de Franz, c'est pas lui-même?
Non, parce que justement, ça a été pour lui une belle embellie de la vie, au-delà du sport. Et donc, de toute façon, il n'a rien à perdre. Hein.
Oui.
Il a réussi à gagner les sélections. Il y avait aussi une sacrée adversité au sein du club, notamment, dans cette catégorie.
Et oui, c'est pour
et
ça.
Et puis maintenant, il n'a rien à perdre. Au contraire, c'est un peu l'euphorie, c'est un peu la sauce le gâteau, ce bel événement. Et donc, voilà, il va tout donner pour ça, et on lui fait confiance pour ça. Maintenant, oui, il reste de sacrés clients, effectivement.
C'est quand même lui qui a gagné les tests de verre.
Hein. Ah oui, hein, c'est pour ça. Hein. Et puis bon, aujourd'hui, on peut dire, il y a Adrien Barre. Il y a Loïc Lenard et il y a Franz Wasser.
Oui. Ah oui, clairement.
Oui, c'est ça. Oui.
Hein,
ah oui.
Et tu disais, tu parlais d'euphorie, et c'est vrai que là, Franz, là-dessus, comment toi tu le sens, là, à quelques jours d'être sur le bassin, tu l'as senti vraiment déterminé, serein, comment tu l'as senti?
Oui, très très déterminé. Alors, il a vécu déjà avec Loïc en C2, il y a 4 ans, ce type de course, et... Et donc il sait comment, il sait aussi comment, comment l'aborder, surtout pas se laisser envahir à ne penser que le quota, que la sélection. Il faut surtout se dire je vais aller vite comme jamais j'ai été. Et à partir de là, le résultat peut suivre. Mais non, non, il a, je pense qu'il a une manière aussi d'aborder, il a déjà vécu, il a une manière d'aborder cette épreuve un peu différente d'il y a 4 ans. Et puis c'est un peu la cerise sur le gâteau. Hein. Je rappelle, il y a 2 Olympiades, la France ne pouvait pas traverser. Il n'y avait qu'un bateau par pays qui pouvait courir. Hein. Qu'un concurrent par pays, donc le fait qu'il y en ait deux, ça lui ouvre une porte, ben, qui va tenter de non seulement de l'ouvrir, mais de bien l'ouvrir.
Olivier, est-ce que le bassin de Ségade est un avantage?
Le bassin de Ségade, ouais, est un bassin qui fait référence. Il y a des records dans notre sport, malgré que ce soit un sport nautique et de plein air. Donc il fait référence et beaucoup de records du monde ont été battus sur ce type de bassin. Maintenant, l'inconnu, l'information que j'ai aujourd'hui, parce que Grégory de Maury est déjà arrivé là-bas avec le Sénégal, l'information que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de vent de face de, pour la France.
Ouais, j'y venais, ouais.
Franck, c'est pas forcément un coureur de vent de face, mais il va s'adapter. Mais de toute façon, il semblerait que le temps va changer fin de semaine. Donc,
ouais, ça doit s'améliorer.
Hein, jeudi, ouais. On croise les doigts. Ouais. Après, Franck a suffisamment d'expérience aujourd'hui pour dire que soit les conditions, il faut s'adapter. Il faut peut-être se recaler un peu dans le bateau, peut-être prendre une pagaie un peu moins grosse, etc. Et là-dessus, avec Anthony Soyer, on a toute confiance, bien sûr, pour aborder les choses dans le bon sens.
Donc Franz Wasser en série, jeudi 10h11, demi-finale 12h14 et finale 16h10. Ça c'est pour Franz et on espère qu'elle aille chercher ce quota, ce serait quand même exceptionnel, énormissime, d'avoir au moins 3 Immercuriens à Paris dans quelques mois.
Pourquoi 3?
Non mais je parle d'Immercuriens parce qu'après bien sûr j'y viens.
Et Gabin.
J'y viens mon ami, j'y viens, bien sûr. Événement numéro 2, cher Olivier, vendredi samedi, c'est Mondiaux de Paracanoë qualificatif pour les Jeux Paralympiques. On aura Gabin Kerel, 18 ans, faut-il le rappeler. Et également celui qui s'entraîne avec lui depuis plusieurs mois, le Sénégalais Edmond Sanka. Comment ça se présente?
Les deux garçons se sont jamais autant entraînés, et c'est peu dire. Gabin, effectivement, 17 ans, il a par exemple passé son bac en 2 ans. Il est au lycée, à section sportive du lycée Gambetta. Globalement, le tarif pour Gabin depuis octobre, c'est 15 jours en stage Guadeloupe, Tampsolote, Portugal, et 15 jours à la maison. Donc il s'est jamais autant entraîné, il a beaucoup, beaucoup progressé. Il a pour lui l'enthousiasme de sa jeunesse, hein. Clairement, il sait qu'on l'attendait pas sur ce, type d'événement. On l'attendait plutôt pour 2028, clairement, hein, aux Paralympiques de 2028 à Los Angeles. Donc voilà, ça arrive plutôt que prévu et c'est de très bon augure. Et puis les derniers chronos réalisés sont très bons. Donc oui, alors par rapport aux valides, la différence effectivement, cela, c'est que c'est un championnat du monde, là, c'est au niveau mondial. Il reste 4 places dans sa catégorie, donc c'est le PL3, ça veut dire que ce sont les personnes au handicap des membres inférieurs. Oui. Et il reste 4 places à aller chercher, et c'est au niveau mondial. Hein.
D'accord.
C'est pas au niveau européen comme les valides, où c'est par continent, les quotas restants sont allés chercher par continent. Voilà. Donc, mais il y aura tout le monde. Il y aura déjà les 6 qui ont eu le quota dans l'Australien champion du monde. Impressionnant à Duisbourg, et puis derrière, effectivement, on a des. Alors, il y a une chose aussi, Miguel, je voulais parler, c'est que il y a un sujet qui est bien sûr la présence sous bannière neutre ou ce que tu veux des Biélorusses et Biélorusses.
Ah.
L'information que je peux te donner ce soir, c'est que en paracanoë, dans la catégorie de Gabin et Edmond, les Russes ne se sont pas inscrits. Il y a deux raisons. Je vous rappelle que les Russes ont donné une liste. La Fédération internationale a diligenté une commission indépendante qui a enquêté sur les athlètes. Et si, effectivement, ils n'avaient pas clairement dénoncé la guerre en Ukraine, s'ils appartenaient à la police, à la gendarmerie, etc., ou à l'armée, eh bien, ils ne pouvaient pas être inscrits. Donc, en KL3, il n'y aura pas d'athlètes de la Biélorussie ou de la Russie.
D'accord.
Par contre, il y en aura. Franck, il va en retrouver, lui, dans sa catégorie, par contre.
D'accord, ok. Donc, pour.
Le bateau athlète neutre. Voilà.
Donc, pour Gabin et non, donc, les séries, c'est vendredi. Demi-finale, oui. C'est le samedi. Et puis, bien sûr, on espère cette finale samedi après-midi pour aller chercher ces tickets. Hein.
Alors, il pourrait y avoir un scénario dans lequel on en rêve. On en rêve, c'est qu'effectivement, imagine que les 6 nations qui ont déjà le quota se sélectionnent pour la finale, et ils passent en finale.
Et oui.
Ça veut dire que si tu arrives à passer en finale, eh bien, dès samedi midi, tu auras le quota olympique.
Et voilà. Oui, c'est ça.
Pour aller passer en finale et espérer que 6 dirigeants qui ont le quota l'ont eu, et ça fera 6 et 3, 9, et voilà, il restera même une place pour le premier de la finale B. Bon, voilà, on est pas trop dans ces calculs-là, parce que sinon,
non, on n'a pas
de tête. Voilà, mais pareil, hein, Gabin un peu, et Edmond aussi, le but, c'est d'aller on pense au chrono avant tout, on est un sport en confrontation, et par contre, là, tu as raison, pour Gabin ou Edmond, parfois, le premier adversaire, ça peut être même, par rapport à ce que tu disais pour France.
Et oui.
Et donc, pour évacuer cela, ben, c'est d'une part de dire que le but, c'est d'aller le plus vite possible, sur 200 mètres, claquer des chronos qui valent 40 secondes, 41 secondes, et peut-être 39, tu as été champion du monde. Hein. Donc, clairement, il faut aller chercher ces chronos-là et évacuer l'adversité, cette histoire de quota. Ça va être lourd, hein. Tu imagines bien, hein, c'est comme ça. Bon, évidemment, il y a toujours un peu de stress et d'enjeux, mais là, cette notion de ultime quota olympique à aller chercher, ou paralympique, ça plombe un peu l'ambiance.
Mais ce qui pourrait être sympa, c'est que, imaginons, encore une fois, là, on est dans nos doux rêves, et ça, c'est pour ça qu'on aime le sport. France décroche un quota jeudi. Je pense que le vendredi, dans la tête des mecs, c'est aussi, encore une fois, décuplé, quoi. Ça peut aider.
Ah ben oui.
Hein?
Ah ben non, mais bien sûr, le phénomène.
Un locomotive, quoi.
On est souvent dans un engrenage positif.
Mais oui.
Et du coup, plus personne ne doute de rien. Et voilà. Et pourquoi le groupe a réussi et pas moi. Et puis voilà. Non, tu as raison, bien sûr.
Hein?
Bien sûr.
Événement numéro 3, parce que Szeged, c'est une énorme semaine. Hein, c'est exceptionnel.
Oui.
Vendredi au dimanche, ce sera la première manche de Coupe du Monde. Et là, bien sûr, on va retrouver notre Adrien Barre, notre Loïc Léonard, notre France. Et il y aura également notre Sénégalaise Combesek. Hein, c'est ça pour le week-end.
Oui, c'est ça. Oui, donc un super événement, donc tout le monde est là, hein. Clairement, tous les meilleurs sont là. Et
bon, c'est une répétition, quoi, c'est une répétition, on voit un peu où on en est, quoi.
Oui, et Loïc et Adrien n'ont jamais été aussi forts, ils ont fait un chrono juste avant de partir à Versovam, et ils font une 40 des poussières, et sincèrement, ils n'ont jamais fait ça à cette période de l'année. Donc ils n'ont jamais été aussi forts, ils ont dernier stage aussi, hein, ils sont beaucoup partis en stage, dernier stage qu'ils ont fait en Espagne avec des Espagnols, et ils ont été médaille de bronze, qui les ont battus, je rappelle, de 12 centièmes à Duisbourg. Et voilà, il y a l'amitié entre le sport, c'est aussi une histoire d'amitié,
bien
malgré
sûr.
Les effets de 3 et 4, et que clairement, ils vont entre eux jouer les médailles au jeu, et bien, ils se sont entraînés ensemble, et Adrien et Loïc ont joué dans le même cours. Tu vois, donc c'est alors que les Espagnols avaient aussi leur pige nationale une semaine après. Donc ça nous rend très très optimistes. Les gars sont passés au stand nautique la semaine passée. Franchement, ils sont bien dans les têtes. Et puis c'est vrai, Adrien le dit souvent, le fait d'avoir le quota, lui qui avait pas connu ça avant, le fait d'avoir le quota un an avant, mais ça permet quand même de bien jalonner les choses et de pas se tromper. Tous les matins en se levant, de pas penser qu'à la sélection, de penser à la médaille.
On rappelle qu'il y aura donc deuxième manche de Coupe du Monde, ce sera Poznan à la fin du mois en Pologne.
Oui.
Et puis bien sûr les Jeux Olympiques, ce sera du 6 au 10 août du côté de Vers-sur-Marne. Il y a bien sûr les athlètes immercuriens, et puis également il y a du staff du côté de Szeged de l'ASL. Hein.
Et oui, donc Anthony, effectivement, suite à la super performance du CD Homme, a été confirmé l'an dernier, il y a eu quelques personnes et entraîneurs qui sont sortis du système. Et Anthony a été bien confirmé comme international senior, donc il va aller jusqu'au jeu, bien sûr. Et puis en paralympique, effectivement, François, qui est mis à disposition de la fédération auprès de Rémi Boulet, vice-champion olympique, que tu as déjà rencontré, Michael.
Oui.
Et puis Gabin étant rentré comme partenaire d'entraînement de Rémi et même plus que ça aujourd'hui, bien François aussi, mon courant, sera donc aux Jeux paralympiques. Et puis la bonne surprise, c'est effectivement la sélection de Grégory Demory qui en fait, drive au club un peu l'entraînement du team Sénégal qui est chez nous depuis 14 mois maintenant. Et Greg a été confirmé depuis les championnats d'Afrique, où Combesek a obtenu son contrat, et effectivement a été confirmé dans le staff du Sénégal. Et donc, on aura un troisième immersurien, c'était pas prévu, dans cette équipe d'encadrants. Et bon, voilà, c'est génial pour lui. Ça reflète aussi un peu, au-delà de Greg, le savoir-faire du club, en termes de coaching.
On m'annonce que le prochain ministre des Sports au Sénégal sera Grégory Demory. On m'annonce ça.
Il va falloir qu'il apprenne à chanter l'hymne sénégalais.
Ouais, et à parler Wolof. Ouais. Non mais Greg, non mais Greg, il est patent, il sait tout faire et c'est un meneur d'hommes aussi.
Ah, oui, femme, bah oui, c'est un leader. Oui, oui.
Et je vous rappelle, hein, il a mené avec Virginie Marie au plus haut au niveau international. Et Cambesec, voilà, vice-champion d'Afrique, c'était vraiment pas gagné. Elle obtient son quota pour les Jeux et c'est aussi fabuleux là ce qui se passe. Belle histoire.
Olivier Bail, donc le président de SL Grand Arras du Canoë Kayak, qui sera à Szeged bien sûr toute la semaine, et on aura bien sûr toutes les informations. En tout cas, Olivier, d'où nous sommes, on vous envoie toutes les ondes positives du territoire pour aller chercher bien sûr ces fameux tickets. Ce serait vraiment une fête exceptionnelle. Et puis bien sûr, on en reparlera, hein, parce que début juillet, la Flamme Olympique partira, on le rappelle, du stade nautique du Grand Arras. On aura l'occasion d'en rediscuter ici même. Donc plein de bonnes choses. Tout d'abord, hein, step by step, comme on dirait dans le sport, étape par étape. Et puis il y a Szeged, et puis on débrief ça très rapidement, Olivier. Ok.
Merci
Olivier.
Bonne soirée,
bonne route.
Et bonne route.
Au revoir.
À bientôt. Ciao.
Merci.
Voilà.
Ouais.
Ah oui, ça va donner. Hein.
Ça va aller vite. Hein.
Ah oui, ça ouf. C'est demain. Le hockey sur gazon, on va reprendre ses droits, mon cher Christophe. National 2 masculine ira 5e, tranquille. Hein, ça devrait le faire normalement. Sera chez la réserve de Valenciennes, qui est dernier pour l'instant. Il reste 3 matchs. Voilà.
Très belle saison.
Très belle saison, magnifique saison. L'avant-dernière journée, Arras recevra Amiens B, donc Amiens qui pour l'instant est 6e, et la dernière journée Arras sera chez Leader, la réserve de Marc-en-Barreuil, mais pour l'instant ça se passe plutôt pas mal.
Tout à fait.
Le waterpolo de salle 1 féminine, ce sera la deuxième phase, c'est le dernier tournoi où les Arageoises seront à Mulhouse, donc elles joueront les Alsaciennes samedi, puis le lendemain Montgeron. Voilà. Chez les garçons, la salle de masculine, il y a eu un match retour, donc il y a quelques temps, pour place 9 à 12. Donc Arras a perdu deux fois, hein, face à Limoges. Il y aura un match de classement de 11 à 12, les 18 et 25 mai prochains. On est de retour aussi. Ce sera face soit au Pélican de Valenciennes ou au Petit Canard de La Rochelle.
Ça te plaît bien, ça.
J'aime bien ça, Pélican, Canard et tout. Alors pour l'instant, l'un et l'autre, ils ont fait 6-6 au match aller. Hein, donc on verra bien.
Et il y a un enjeu, cette 11e, 12e ?
Ben non.
Non,
non, non, c'est sympa.
Ils se maintiennent.
Voilà, ils se maintiennent.
Ils se maintiennent dans une.
Bah oui.
D'accord, ok.
Voilà. Donc tout va bien normalement. Hein? Volleyball, dernière journée déjà de Régional 1 féminine. Arras 7e sera face au dernier Allouin samedi à 18h à la salle Jules Ferry. Puis à 20h30, les Arageoises 8e recevront le 3e Lillers. Là, bon, il n'y a pas de souci, ça va se maintenir. Et puis en pré-national féminine, pour Annie, eh ben, la saison est finie. Parce que la dernière journée, ils l'ont déjà joué. Elles ont perdu 3-0 à Mouveau. Bilan, elles finissent dernière. Et donc, voilà.
La marche était haute.
3 victoires, 15 défaites. Rappelle-toi, on a eu le président en début de saison. Déjà un retour pour le promu régional. Mais comme on l'a dit pour les Borinoises en tennis de table, elles y ont goûté. Et peut-être qu'elles y retourneront, etc. En tout cas, Annie a tenté, mais c'est vrai que le fossé est énorme. Donc voilà quoi. Il manquait pas grand-chose, hein. Deux victoires de plus et puis c'était bon. Mais ce n'est pas simple.
Ça apprend.
Voilà, ça apprend. On marque une pause et dans un instant, on va parler d'une nouvelle discipline olympique pour les JO 2024 à Paris. À tout de suite.
Réparabilité. Cela veut dire faire appel à un expert pour évaluer la réparation de votre véhicule. Une expertise, c'est important. Avec la Carrosserie Payen, partenaire Motrio, votre véhicule est entre de bonnes mains. Celle d'experts. Nicolas Payen saura vous conseiller. Carrosserie Payen, depuis 60 ans à votre service. Devis, sinistre, nous sommes là quand vous avez besoin de nous, alors n'hésitez pas à nous appeler. Tout type de véhicule de prêt en boîte manuelle ou automatique. Carrosserie Payen, partenaire Motrio, 50 rue Baudimont à Arras. 03 21 71 02 56.
Les 18 et 19 mai prochains, le département du Pas-de-Calais invite les artistes plasticiens, amateurs ou professionnels, à ouvrir les portes de leurs ateliers. Venez échanger avec eux sur leur technique, leur parcours et découvrez leurs réalisations. Au programme, sculpture, peinture, céramique, poterie, dessin, gravure et bien d'autres savoir-faire. Les portes ouvertes des ateliers d'artistes, un moment convivial à ne pas manquer. Rendez-vous sur artiste62.fr pour préparer votre parcours de visite.
Événement. Vendredi 31 mai, Gims est en concert géant à Lens, au Stade Bollard. Venez découvrir un show grandiose, les titres du dernier album et tous les plus gros hits de Gims en live dans le mythique Stade Bollard. Gims, vendredi 31 mai à Lens. Venez saper comme jamais pour un concert de Gims exceptionnel. Saper
comme jamais, saper comme jamais.
Gims.
Je sais pas si je t'aime.
Bollard en scène avec Gims. Réservez vos places tout de suite à partir de 29€ sur billetterie.rclance.fr. Également sur les réseaux de vente Ticketmaster et France Billets.
100% sport sur Planète.
100% sport, saison 18, la dernière partie, un lundi par mois avec Christophe Humet. Émission écoutable et podcastable gratuitement sur planetfm.net. Dernier invité ce soir, c'est Yannick Routier de l'association Croustillant. Bonsoir Yannick.
Salut Mickaël.
Comment ça va mon cher Yannick?
Bah écoute, ça va plutôt bien.
Ça va plutôt
en
bien.
En forme.
Bon, on va parler de l'association rageoise Croustillant. Il y aura un gros événement qui va arriver d'ici une dizaine de jours. Avant d'en parler, on va parler de cet assaut, de ce club, si on peut dire ainsi. Il sert à quoi ce club? C'est quoi les objectifs?
Bah écoute, Croustillant, c'est une association spécialisée en danse hip-hop.
Oui.
Donc notamment en breakdance, donc breaking et danse debout. Et on fait aussi un peu de foot freestyle. Et l'objectif du club, c'est de promouvoir la culture hip-hop à travers la danse, en formant les jeunes et les moins jeunes aux différents styles de danse hip-hop qui existent.
Combien de licenciés aujourd'hui, Yannick?
Alors, cette saison, on est à pratiquement 160 licenciés.
Waouh.
Voilà, ça représente quasi 50-50 en termes de filles et garçons, donc on est plutôt contents.
Ah d'accord, attends, il y a une parité filles-garçons, c'est marrant ça.
Ouais, on a quasi autant de filles que de garçons qui pratiquent le hip-hop.
D'accord. Et sur les âges, comment ça se diversifie?
Ça commence. Alors les cours commencent à partir de 6 ans et on a ensuite des cours adultes. Après, j'ai pas en tête l'âge le plus haut, mais ça monte à plus de 40 ans, quoi.
D'accord. Et c'est souvent même aussi des familles. Ça...
On a des fratries, mais on a aussi pas mal de personnes, d'enfants solo ou même en adulte. Hein, c'est pas forcément des familles, mais on a quand même quelques familles qui sont inscrites dans l'assaut, quoi.
Alors, parmi les dirigeants, donc combien de dirigeants, combien d'encadrants, ça se passe comment au quotidien, Yannick?
Alors, au niveau des dirigeants, on a une présidente, Gwendoline Lagnès.
Oui.
On a une secrétaire, c'est Chloé Roussy, on a une trésorière Aurélie Collin, et ensuite on a deux références, deux mamans référentes, une en break, une en hip-hop, et après au niveau des encadrants, on est 7 encadrants. On est à trois encadrants break, trois intervenants hip-hop, donc c'est tout ce qui est danse debout, puis un intervenant foot freestyle.
D'accord. Vos lieux d'entraînement, ça se passe où et comment?
Alors du coup, ça se passe, on a des cours à la salle Lola Grange du lundi au vendredi,
ouais,
entre 18h et 22h, pratiquement tous les jours. Et puis ensuite, on a aussi un créneau cette année au Pharos, le mardi de 18h à 20h.
Alors, tu as parlé donc breakdance, hip-hop, etc., même freestyle. Aujourd'hui, on peut faire du breakdance facilement? C'est donné à tout le monde?
Alors oui, c'est donné à tout le monde. En fait, l'avantage aujourd'hui, c'est qu'il y a de plus en plus de structures avec des intervenants qualifiés qui ont l'expérience, qui ont la pédagogie. Donc c'est plus facile de commencer la danse, enfin en tout cas le breakdance aujourd'hui, que moi à l'époque il y a quasi 17 ans, quoi.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, parce que tu fais partie des fers de lance avec cet asso, hein, tu fais partie des gens qui ont construit. Si on met un petit focus sur 17 ans d'âge, hein, presque majeur même, je dirais, cet asso.
Ouais, alors l'asso, elle a pas 17 ans. Moi, j'ai 17 ans de pratique, mais l'asso, elle a 13 ans exactement. Ouais. Je l'ai créé en 2012.
Que le temps passe, cher ami.
Oui, ça passe très vite.
Hein. Est-ce que tu aurais pensé être en arrivé là, 13 ans, quand t'as commencé il y a 13 ans à créer ça?
Alors non, du tout. Il y a 13 ans, quand j'ai commencé, j'étais quasi tout seul
à
la grange à l'étage. Et aujourd'hui, on est 160.
Ouais, 160 aujourd'hui. Alors voilà. Et puis derrière, donc il y a ce club. Et puis un jour, tu dis, tiens, on va aussi promotionner un peu l'événement. On va faire un petit événement tranquillement. Et tu lances le Battle Break It. Et on en est à 10 ans. 10e édition. Ça se passera samedi 18 et dimanche 19 mai. C'est quoi l'événement?
C'est ça. Alors le Break It, c'est un événement, comme tu l'as dit au départ, c'était un petit événement et aujourd'hui c'est quelque chose d'international, c'est qui s'est transformé en festival pour les 10 ans. Et du coup, on on est sur le week-end du 18 et 19 mai sur voilà un festival international de danse hip-hop. On va retrouver différentes catégories en breakdance, mais aussi en danse debout.
D'accord. Alors, quand tu dis différentes catégories, explique-nous, nous qui sommes un petit peu novices, candidats, ceux qui nous écoutent, pour ceux qui aimeraient venir voir, ça va se passer comment par rapport aux catégories, par rapport à tout ça?
Alors, en termes de catégories sur la partie battle, on a une catégorie en équipe de 5 contre 5, donc c'est 5 danseurs contre 5 danseurs, et ça c'est la catégorie kids, donc c'est enfants moins de 18 ans.
D'accord.
Ensuite, on a une catégorie en 1 contre 1 big girl, donc c'est la catégorie féminine. Ensuite, on a une catégorie 2-2 avec des spécialités. Alors, les noms que je vais donner, ça va pas forcément parler,
bien sûr,
mais
bien
c'est
bien
vraiment... parce que c'est top rock footwork, c'est vraiment propre au breakdance. Et enfin, on a le fameux 2-2 break it qu'on connaît depuis maintenant 2017, où là, on est sur un 2-2 international avec des équipes qui peuvent être mixtes, avec des équipes 100% masculines ou des équipes où on peut aussi avoir un adulte avec un enfant. Voilà, et ça, c'est le gros main event du break it, ce 2-2.
Alors, Yannick Routier, tu parles des danseurs venus du monde entier. Bah, dis-nous, ça vient d'où?
Alors cette année, pour les 10 ans, on a des danseurs qui viennent de Corée du Sud, du Canada, du Brésil, du Venezuela. On a des danseurs qui viennent d'Italie, Allemagne, Espagne, Angleterre, Pologne,
Suisse. Attends, voilà. Tu parles de Venezuela. Comment on arrive à dénicher des danseurs à venir à Arras sur un week-end? Comment vous avez bossé en coulisses?
Bah, c'est 17 ans de travail, hein.
Ouais.
C'est du réseau, c'est des voyages, c'est des compétitions, et du coup, petit à petit, on peaufine, enfin, on fait grossir le carnet d'adresses, et puis, du coup, quand on invite des danseurs qu'on a déjà rencontrés à travers les voyages, c'est plus facile pour les faire venir derrière.
Ce qui veut dire que, voilà, les danseurs viennent, mais vous également, vous vous exportez?
Alors, bah, on essaye de bouger. Alors, j'ai pas fait tous les pays, hein. J'ai pas fait le Canada, j'ai pas fait la Corée du Sud.
Ouais.
Mais de temps en temps, c'est l'occasion, quand j'ai l'occasion de bouger sur des événements en France, je les rencontre en compétition. Et du coup, à la fin, on discute, on échange. Ou par moment, moi, ça m'est déjà arrivé. L'an dernier, on a fait les États-Unis. Moi, j'ai dansé un peu partout en Europe. J'ai dansé en Thaïlande, etc. Donc, ça m'a permis ici d'affiner mon réseau.
Quand tu parles de Corée du Sud, Venezuela, Canada, ce sont des gros pays de breakdance?
La Corée du Sud, c'est un très très gros pays de breakdance.
Ah ouais. D'accord.
Le Canada, c'est pareil. Alors il y a pas énormément de danseurs, mais ils sont tous très forts, j'ai l'impression. Et il y a un des meilleurs danseurs du monde, c'est un Canadien, il s'appelle Phil Wizard, qu'on a eu l'occasion d'avoir nous en 2019 pour les 5 ans du break it. Et là cette année on réinvite des Canadiens, alors c'est pas le même, mais en tout cas il est aussi fort quoi.
Alors ça va se passer sur deux soirées, c'est en soirée que ça se passe les battles?
Alors le programme pour les 10 ans, vu que c'est en mode festival, en fait on pourrait même parler du 17 mai parce qu'on a un spectacle, alors c'est pas un battle mais c'est un spectacle avec la compagnie Racine Carrée, donc là c'est un spectacle qui dure une heure, c'est une création. Et ensuite le 18 mai en fait... de midi à 19h, on est sur un village des cultures urbaines, en extérieur du Pharos, c'est gratuit, et là on va pouvoir découvrir, il y aura toute une partie battle pour faire tout ce qui est qualification, les last chance, etc. Mais il y aura aussi tout un pôle musical, un pôle culture, un pôle sport urbain, un pôle street art, lifestyle, et puis le pôle battle. Donc ça c'est sur samedi de midi à 19h, c'est gratuit, et enfin, le samedi soir à partir de 20h, on a les finales 5-5 kids et 1 contre 1 big girl.
Ouais.
Où là, c'est à l'intérieur du Pharos, c'est 3€ l'entrée. Et le lendemain, le dimanche, on est sur la finale top 16 du 2-2 break it international. Pareil, c'est à l'intérieur du Pharos, ça commence à 16h et c'est toujours 3€ l'entrée aussi.
Alors ça, donc c'est 18 et 19 mai, hein, et puis même le 17, hein, du côté du Pharos Arras avec la 10e édition du Battle Break It. Yannick, on est obligé d'en parler, est-ce que j'en parlais tout à l'heure en préambule, le breakdance est devenu une discipline olympique.
Olympique, exactement. Depuis, c'est la première fois dans l'histoire des Jeux et dans l'histoire du breakdance que le breaking, qui est l'appellation officielle pour les Jeux Olympiques, fait son entrée. Et du coup, on aura l'occasion de pouvoir découvrir les épreuves le 9 et 10 août prochain à la télé. Donc, c'est vraiment À la fois une fierté puis une grande première pour le hip-hop.
Alors, je me souviens, on s'était vu au Pharos il y a quelques temps, il y avait le sélectionneur national qui était venu à Arras il y a quelques temps pour parler de 24 de Paris des JO. Et il était venu voir un peu les gamins, les gamines. Moi, j'avais assisté à cette soirée, ça avait été franchement super génial, avec bien sûr le côté DJ qui met le feu sur la scène. On est en mai de 24. En préambule, on parlait peut-être d'Arajois qui pourra un jour peut-être arriver. On en est où sur des potentiels, peut-être pas pour 2024, mais pour 2028?
Alors, pour 2028, malheureusement, le break sera pas au JO.
D'accord.
Donc, mais on espère que ça reviendra. Donc, ça sera pas 2028, ça sera 2032. Ouais. Mais en attendant, ça nous laisse, nous, le temps de former la nouvelle génération. Parce qu'à Arras, faut pas croire. Mais on a un petit vivier de danseurs, que ce soit en filles ou en garçons, qui commencent à avoir un bon niveau,
ouais,
et qui commencent à faire des très bons résultats dans la région, même au national, voire même à l'international. Donc du coup, l'objectif, c'est de les accompagner au maximum. Comme ça, dès que l'occasion se représentera d'avoir les Jeux Olympiques, enfin d'avoir le break au JO, c'est de pouvoir la possibilité d'avoir un jeune Arajois ou une jeune Arajoise dans l'équipe, enfin en tout cas dans l'équipe de France qui ira représenter la France et le breakdance au prochain JO, quoi.
Vous serez spectateur aux disciplines olympiques aux JO de Paris cet été?
Alors non, moi j'y serai pas, parce qu'en fait à Arras on a la chance d'avoir une fan zone du côté de Saint-Laurent, et du coup on prévoit de d'utiliser la fan zone pour regarder les épreuves avec tout le monde tous ensemble, parce que le breakdance c'était la première discipline sold out.
Ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire, il y a de l'attrait.
C'est ça.
Il y a de l'attrait. Avant ça, samedi, donc vendredi 17, samedi 18, dimanche 19 mai, Battle Break It, 10e édition, du côté du Pharos d'Arras, avec bien sûr l'assaut croustillant, avec à l'instant, c'est Yannick Routier. Yannick, en tout cas, bravo pour ce que tu fais, pour ce que vous faites, bonne continuation, et puis plein de bonnes choses, et à l'avenir, on se tient au courant, ok?
Merci beaucoup pour l'invitation.
À bientôt Yann, bonne soirée à toi, ciao.
Bonne soirée, salut.
Voilà. Pour le breakdance, mon cher ami, on sait plus pour nous, hein.
Non, mais bon, ça me fait rire, moi. On les met au jeu.
On les met.
24,
on
les met
pas. C'est hallucinant.
Ils vont nous prendre quoi en 28?
Tu le sais, toi?
Le jet de bouchon?
Ouais.
Non, mais c'est
C'est malheureux, non, mais parce qu'encore une fois, il y a plein de gens qui...
C'est quoi, c'est pour faire un effet? C'est quoi, c'est...
Certainement. On va voir si ça marche.
C'est ça l'olympisme?
Non, mais on va voir si ça a de l'attrait.
Ça va marcher.
Plus, ce qu'a dit Yannick, hein. Sold out. Maintenant, est-ce que ça va?
Ça va marcher.
Oui. Souviens-toi le mur d'escalade, hein. Escalade.
C'est intergénérationnel.
Souviens-toi l'escalade avant, et puis ils se sont rendus compte que c'était sympa, et puis ça continue.
Non, mais c'est intergénérationnel.
Il n'y a plus de karaté cette année, hein.
Je sais, il n'y a plus de karaté.
Ok. Ouais. Ah, non. Sans karaté, c'est, hein, d'accord?
Ouais, c'est un des sports les plus anciens, hein, des Jeux Olympiques. Hein.
Et oui, enfin, voilà.
Peut-être un jour on enlèvera la natation et l'athlétisme aussi, non?
Oh.
Ou alors on fera la natation sur le stade, et puis on fera l'athlétisme dans piscine.
Peut-être.
N'importe quoi.
On parle de badminton, cher ami. Le top 12, c'est fini. Dernière journée des interclubs, où Arras a accroché 4 partout. C'était face à Chambly le 20 avril. Le leader a vaincu et champion de France à 8 reprises. Donc c'était une belle performance, hein, pour clôturer une saison qu'on peut dire compliqué.
Chaotique.
Et on va écouter son capitaine joueur, Léo Rossi.
C'est toujours bien d'accrocher les premiers de la poule. Il n'y avait pas de match lâché ou quoi. Donc c'était des bons matchs. Et puis voilà, on savait qu'on ne pouvait pas aller chercher les playoffs. On était un peu décontractés par rapport à ça, je pense. Les piliers de l'équipe étaient présents. Donc c'est toujours plaisant de partager ça avec eux. Après, c'est vrai que sur la fin de la saison, on a senti qu'il y avait un gros coup de mou. Voilà, j'espère que l'année prochaine, on aura des ambitions pour aller chercher les playoffs. Parce que là, sur la fin de saison, c'était compliqué même d'avoir la motivation de tout donner pour le club, en fait.
Aussi stop ou encore à Arras l'an prochain?
En fait, tout dépend des ambitions du club. S'il y a une équipe compétitive pour aller chercher les premières places du championnat, moi, c'est un réel plaisir de jouer ici avec tout le monde et tout ça. Donc après, s'il y a une équipe un peu bancale ou compliquée de tenir la route, c'est vrai que c'est un peu plus difficile de garder toujours le même enthousiasme quand on vient jouer. Et je pense que le plus important à avoir, c'est avoir une équipe solide qui s'entraîne encore au niveau pour pouvoir performer et aller chercher les playoffs et une médaille au championnat de France par équipe. Donc pour en discuter avec les dirigeants du club. Mais moi, je suis chaud, hein, mais on verra bien.
Dernier duel
le mix avec Émile Lefel, s'il vous plaît, 10 ans de club ici. Hein.
Ouais, bah, j'ai dit quand la feuille est sortie, j'ai dit, ah, je vais partager le dernier match avec toi, on essaie d'aller chercher. Comme à chaque fois, plaisant de jouer avec Émile, un peu de difficulté toujours sur les services, mais bon, ça fait partie du jeu, quoi. Elle s'entraîne plus comme avant, donc c'est normal qu'il y ait des petits défauts qui s'installent, mais bon, bah, toujours battante et guerrière. Et quand je lui dis, je sers en 1, 2 ou 3, elle dit, ok, je casse le fil, et bah, ça montre un peu qu'elle a une mentalité de battante.
Et oui, Léo Rossi, capitaine joueur du Babylon Club Arras. Donc on rappelle, hein, ils ont terminé donc avant-dernier, 4 victoires, Christophe, 1 nul, 5 défaites. Donc oui, une saison chaotique, décevante. Hein.
Ah mais oui, clairement, clairement. Après, c'est une saison olympique, mais je pense que c'est pas la principale excuse cette année.
Non.
Autant ça a pu l'être peut-être en 2021. Autant cette année, c'est pas une excuse. Ouais, voilà, donc après, je pense que Léo a résumé ce que tout le monde pense par rapport à la présence ou pas des uns et des autres et par rapport à l'avenir, surtout que bah, l'équipe de N3 descend, quoi.
On va y venir juste avant, donc pour faire la transition, hein, on parle donc d'Émile Lefel, qui est arrivé il y a 10 ans, hein, elle venait de Bordeaux, je me souviens très très bien de la conférence de presse que j'ai eu la chance de faire à ce temps-là avec monsieur Vincent Régalois. Nous étions dans un restaurant que tu connais bien, une brasserie près de la gare, pour ne pas nommer parce qu'il n'existe plus, c'était le Carnot. On avait été reçus là-bas avec Stéphane Monchy, le président de l'époque, donc ça rappelle de bons souvenirs quand Émilie est arrivée.
Faut pas oublier où Émilie a commencé aussi. Hein.
Oui.
Donc voilà, elle vient de Vimy quand même.
Vimy,
hein.
Oui.
Voilà. Grandes années de Vimy.
Hein. Grandes années de Vimy.
Et après elle est partie à Bordeaux et elle est revenue ici, 10 ans. Et puis j'ai une pensée l'autre jour pour elle parce que Anne Tran, sa fameuse équipière pendant de très longues années, a été championne d'Europe.
Oui, oui.
En double. Et c'est ça montre bien qu'Émilie a fait ce qu'il fallait, comme il fallait pendant des années. C'est une vraie clubiste, voilà. C'est quelqu'un qui...
Avec des vraies valeurs.
Qui s'est investi, qui a des vraies valeurs, qui, voilà. Elle triche pas. Elle a jamais triché.
Non.
Le jour où elle pouvait pas, elle le disait. Elle a été blessée, faut pas l'oublier aussi, beaucoup. Pas beaucoup, mais elle a été...
Tour d'Achille.
Le tour d'Achille, ça a une coupure dans sa carrière. Grand respect pour elle.
On va écouter, donc, Émilie, le sentiment du devoir accompli, mais pas fini.
Ça fait long, hein, mais en même temps, ça fait court. Je suis toujours heureuse d'être ici. Hein. Aucun regret d'être partie de là où j'étais pour venir ici. 10 ans, mais 10 belles années.
Et maintenant, et après ?
Alors après, on va descendre dans les équipes secondaires. Hein. Clairement, le top 12, c'est plus pour moi. J'ai plus le niveau et j'ai plus forcément l'envie de persévérer là-dedans, de voir faire les entraînements qui vont avec. C'est beaucoup d'entraînements et je peux plus le faire par rapport à ma vie professionnelle. J'ai envie de continuer de prendre plaisir au badminton, ce qui est un petit peu difficile aussi. Cette année, parce que forcément ben, beaucoup de matchs perdus. Quand on a été athlète de haut niveau, c'est difficile aussi d'accepter de baisser en niveau, donc ça n'a pas toujours été évident et j'ai envie de reprendre plaisir, de jouer avec les personnes avec qui je m'entraîne aussi, avec qui je m'entends très bien et avec qui j'ai envie de, éventuellement, s'ils veulent bien de moi N3, bah, de faire monter la N3 à N2, ça pourrait être un bel objectif.
Émile Lefel, la badiste d'Arras, et puis également donc Émilie devrait jouer certainement en équipe B, sa compatriote Marie Batoménet également arrivée en 2020, hein, rappelle-toi. Elle aussi, elle raccroche le top 12, mais pour l'instant, elle ne sait pas encore ce qu'elle ferait. Est-ce qu'elle va continuer en équipe B ou quoi que ce soit? Pour l'instant, rien n'est défini pour Marie Batoménet. En ce qui concerne les Anglais, c'est plutôt bien parti, selon mes informations. C'est plutôt bien parti, mais affaire à suivre.
Toby aussi?
Oui, c'est plutôt bien parti. J'ai dit c'est plutôt bien parti. Voilà. Et puis tu en parlais, hein, tu en parlais tout à l'heure. Là aussi, hein, comme quoi c'est une saison décevante. L'équipe B, National 3, n'a pas pesé lourd. Encore une défaite 7-1. Avant-dernière, 3 victoires, 1 nul. 6 défaites, une désillusion, puisque c'est la relégation
en
pré-national. Ouais, comme quoi, là aussi, il y a une fin de cycle, hein.
Pour une équipe qui avait bien démarré, qui après a enchaîné les valises. Elle a enchaîné les valises sur les 3 ou 4 derniers matchs, je crois.
Ouais.
Donc, toi qui notes tout, je pense que tu retrouveras les scores, mais équipe B, je pense qu'ils ont pris cher sur les derniers matchs. Donc,
Il y a eu une défaite 7-1. Il y a eu ensuite un nul. Défaite après, ils ont perdu 7-2 le 27 janvier. Ils ont perdu 5-3, ils ont perdu 5-3, ils ont perdu 6-2, et donc 7-1 face à Wambrochi. Et dans cette équipe de Wambrochi, il y avait Léo Doucet.
Ah oui, d'accord. Ah, en plus. Ok. Non, voilà, donc.
Ancien Arrache-Bois, bien sûr.
On verra comment, qui sera là, qui ne sera pas là. On verra comment ça va se passer après, quoi. C'est tout.
Et là aussi, sur l'équipe B, hein, j'avais rencontré à l'issue du match le coach, hein, Hervé Bourgeois, qui poursuit sa réflexion pour rester aux manettes du club. Hervé est là depuis 9 ans. Voilà. Ouais. Voilà, 9 ans. Donc, il y aura-t-il une dixième saison? Il est en réflexion encore. Je l'avais vu en sortie du match, il était très très déçu. Il pensait aussi que c'était peut-être une fin de cycle pour lui. Parce que c'est quelqu'un qui est aussi
droit,
très droit,
carré, respectueux.
Une belle personne.
Il a été aussi aux commandes de l'équipe première.
Oui. Une belle personne, très discrète, mais toujours qui fait le taf. Et donc voilà, il se questionne également. Donc on va voir, mais peut-être pas mal de changements, peut-être qui sait.
On verra.
Affaire à suivre. En tout cas, en top 12, le Final Four se passera